La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête.
Oh. Oh. Tête, 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 tête. Carré.
Nous avons tous été un jour pris de vertige en ressentant cette désagréable sensation de voir tout tourner autour de nous avec ces vertiges qui se caractérisent par une perception de mouvement ou de déséquilibre, souvent accompagnée d'ailleurs de nausées et de vomissements. Que sait-on exactement des vertiges? Quelle en est la cause? Comment sont-ils pris en charge? Eh bien, c'est le dossier dans un instant avec mon invité Michel Toupet qui est spécialiste de la question et j'attends justement vos messages dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un prix Nobel de chimie très proche de la biologie.
Oui Mathieu, trois lauréats et lauréates américains et britanniques récompensés pour avoir réussi à dompter les mécaniques du vivant et à les utiliser pour la chimie, on vous explique dans un instant.
Et puis nous irons à Cologne également au centre spatial allemand pour parler de l'arrivée du module mascotte sur l'astéroïde Ryugu. Et c'est Fanny Boyon qui réalise aujourd'hui cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Les mercredis psy et philo avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Les vertiges, ce sera donc le dossier dans un instant avec vous, Michel Toupet. Bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bienvenue. On va donc parler avec vous d'ailleurs des vertiges au pluriel hein, parce qu'il y en a différents types.
Oui, il y a toutes sortes de vertiges. Généralement, ils sont dus à l'oreille interne. Il y a différentes causes, des petits cristaux, des problèmes d'œdème, des problèmes vasculaires, des petites tumeurs. Mais souvent, c'est le cerveau.
Ouais, on va essayer de garder les pieds droits sur terre donc avec vous et puis essayer de comprendre comment tout ça fonctionne évidemment à la fois dans le cerveau et dans l'oreille avec donc les questions des auditeurs qui vont nous rejoindre sur franceinter.fr et puis également le mot-clé l'attaque. On se retrouve dans un instant, Michel Toupet, merci.
Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2018 års Nobelpris i kemi med ena hälften till Francis H. Arnold för riktad evolution av enzymer och med andra hälften gemensamt till George P. Smith och Gregory P. Winter för fagdisplay av peptider och antikroppar.
Voilà, on va faire des programmes suédois,
oui, force, on va Axel. Traduire.
C'était Stockholm donc ce matin, puisqu'on parle évidemment de ce prix Nobel, de ce triple prix Nobel de chimie d'ailleurs.
Oui, l'américaine française Arnold est récompensée seule pour ses travaux sur l'évolution dirigée de groupes d'enzymes. Et d'un autre côté, son compatriote George Smith et l'anglais Greg Winter pour l'utilisation de phages comme outil de sélection. En fait, ce sont en somme deux techniques qui sont primées. Toutes deux assistées par le vivant et pour un bref aperçu de ces travaux, nous sommes au téléphone avec nos deux invités, Franck Pérez et Marcel Hollenstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Marcel Hollenstein, vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur et spécialiste de l'ADN modifié. On va commencer avec vous pour ce cinquième prix Nobel féminin de chimie de l'histoire, Frances Arnold. Ces travaux récompensés datent de 93. En quoi est-ce qu'ils ont consisté alors?
Alors, déjà, bonjour à tout le monde. En fait, ces travaux, ils ont été dédiés à l'évolution de nouvelles enzymes. Donc, les enzymes, ce sont des protéines qui sont capables d'accélérer ou de catalyser des réactions chimiques.
Mm-hmm. Et donc, quand on dit évolution, ça veut dire quoi? On parle de l'évolution au sens biologique du terme?
Alors c'est une évolution in vitro, donc dans le laboratoire, mais qui se calque un peu sur l'évolution naturelle des protéines et des enzymes et des organismes de manière générale. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont inspirés justement des processus de la nature. Ils ont modifié de l'ADN, l'inséré dans une bactérie, qui ensuite a produit des enzymes tout naturellement. Et les enzymes qui ont des propriétés nouvelles et intéressantes ont été gardées. Et c'est ce processus d'évolution qui a été récompensé par le prix Nobel de chimie 2018.
Alors quel est l'intérêt de faire évoluer des enzymes alors?
C'est une très bonne question. Alors, il y a beaucoup d'applications. Les premières applications, c'était pour faire des enzymes qui sont capables de fonctionner dans des conditions qui sont différentes à celles rencontrées dans la nature, par exemple à des hautes températures ou dans des milieux organiques. Et à l'heure actuelle, on peut les utiliser pour synthétiser des médicaments, des biocarburants et de nouveaux matériaux.
Eh bien, on a tout compris. Franck Pérez, on va s'intéresser avec vous à l'autre partie de ce prix Nobel. C'est celle de l'américaine George Smith et l'anglais Greg Winter, l'américain George Smith. Alors, vous êtes biologiste cellulaire et chef d'équipe à l'Institut Curie. Et la découverte de ces deux Nobelisés, vous l'utilisez tous les jours dans votre labo puisque c'est un outil à base de virus. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Oui, ce qu'ils utilisent, c'est des virus de bactéries. On appelle ça des bactériophages. Qu'ils ont manipulé pour présenter à l'extérieur, à la surface du bactériophage, des peptides ou des fragments d'anticorps. Et on est comme ça capable d'aller chercher dans des énormes collections de variants les quelques anticorps qui nous intéressent, par exemple pour cibler des tumeurs, pour réduire l'inflammation, c'est ce qu'a fait notamment Greg Winter. Mm-hmm. Donc leur talent, c'était ça, comment aller chercher quelques protéines intéressantes dans une soupe de milliards de choses qui nous intéressent.
Mais qu'est-ce qui est intéressant dans le fait d'utiliser des virus? Pourquoi ils vont plus vite que d'autres techniques qui n'utilisent pas le vivant, par exemple?
L'intérêt, c'est d'utiliser les bactéries comme machine de production. Donc les bactéries vont produire les différents variants qu'on veut sélectionner. Ils vont produire ensuite les phages. Et c'est ce module-là qui va nous permettre de sélectionner à la fois les protéines qui nous intéressent, de nouveau, un anticorps par exemple, et les gènes qui codent pour ces anticorps. C'est pour ça qu'on appelle ça des anticorps recombinants. Parce qu'en plus, ensuite, on peut les faire évoluer aussi avec des méthodes assez comparables à l'évolution des enzymes. Et on peut les manipuler pour les utiliser pour de nouveau des applications thérapeutiques chez l'humain ou autre.
Donc si on résume, en fait, ce prix Nobel, c'est vraiment l'utilisation du vivant comme outil de laboratoire ou outil pour la chimie.
C'est ça, c'est comment utiliser le vivant pour aller chercher de la diversité. On sait faire des énormes banques combinatoires avec une diversité de dizaines de milliards de variants. Et il fallait trouver des moyens d'aller chercher dans cette diversité. Et le talent de Winter et Smith a été d'utiliser des organismes vivants, des bactéries et leurs virus pour aller chercher dans cette diversité.
C'était en quelle année le début de ces techniques?
Tout ça a commencé dans les années 80 quand on s'est rendu compte qu'on pouvait présenter à la surface de phages des fragments de protéines, fin 70, début 80, et c'est là qu'on s'est dit que c'était sans doute des outils incroyables pour aller présenter des petits fragments, des petits peptides, pour bloquer des récepteurs, pour trouver des façons d'interagir avec des protéines, ou des fragments d'anticorps, et qui maintenant, compte tenu de l'importance de l'immunothérapie, de la thérapie à base d'anticorps, est devenue très importante dans les laboratoires, à la fois privé, industriel et académique.
Merci Franck Pérez et merci aussi Marcel Hollenstein, parce que grâce à vous deux, on a été un peu éclairés sur ces trois Nobel finalement. Oui. C'était compliqué de comprendre de quoi il s'agissait dans ce domaine de la chimie. Marcel Hollenstein donc pour l'Institut Pasteur et Franck Pérez pour l'Institut Curie. Merci beaucoup à tous
merci
les deux.
La tête au carré sur France Inter.
Et la une de la science, ça n'est pas fini, Axel, car dans l'actualité scientifique aujourd'hui, il y a aussi le largage du module européen Mascotte sur l'astéroïde Ryugu. Et c'était cette nuit.
Oui, Mathieu, à 4h du matin et à 230 millions de kilomètres d'ici, la France et l'Allemagne ont pour la première fois posé une sonde sur un astéroïde. Pour nous raconter cette folle nuit, nous sommes en direct avec Sophie Becherel de la rédaction de France Inter qui se trouve au centre de contrôle de la mission à Cologne. Bonjour Sophie.
Bonjour.
On a un petit décalage, mais on va s'en sortir. Alors, le petit module Mascotte est bien arrivé, on en est certain maintenant.
Ah bah oui, Jean-Pierre Bubring va nous l'expliquer dans un instant, mais c'est vrai que la matinée a été chargée en émotions parce que le largage s'était bien passé, l'atterrissage exactement d'ailleurs à l'endroit souhaité et programmé par les équipes, sauf que Mascotte n'était pas dans la bonne position. Alors du coup, il a fallu agir un petit peu en urgence pour ne pas mettre en péril la mission. N'est-ce pas Jean-Pierre Bubring?
Oui, et bonjour à tous dans le studio. Et
bonjour.
Merci de faire partager avec vos auditeurs nos aventures qui sont toujours un peu périlleuses mais merveilleuses. Et donc effectivement, on s'était dit qu'il faudrait pour la première fois aller voir de près ce que c'est qu'un astéroïde. Donc on a conçu cette mission il n'y a pas si longtemps que ça, mais enfin ça fait une dizaine d'années. Et on n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblerait cet astéroïde. Ça nous a rappelé un petit peu ce qu'on avait fait pour Rosetta et Philae quand il a fallu construire un atterrisseur pour un objet dont on ignorait tout. Et là, c'est un petit peu la même chose. Et on a découvert uniquement en arrivant, c'est-à-dire fin juin, à quoi ressemblait cet objet. Et il est, il faut dire, très peu coopératif parce que il ressemble pas du tout à ce qu'on pouvait imaginer. Et se poser dessus est tout sauf simple. Mais c'est ça les aventures. Et en général, les difficultés sont à la mesure des enjeux. Les enjeux sont énormes. Donc, on essaie pour la première fois de caractériser la surface de ce qu'on croit être les corps parents des chondrites carbonées, c'est-à-dire ces météorites les plus primitives, les plus primordiales, qui ont du carbone, et on est convaincu que ce carbone, sous une forme moléculaire, est un peu le chaînon entre ce qui a permis finalement aux structures vivantes de se former sur Terre. Donc on avait fabriqué cet engin pour se poser tranquillement. Ça s'est à peu près bien passé, sauf qu'effectivement on se doutait bien qu'après une chute libre de 60 mètres, on ne savait pas de quel côté il se retrouverait. On a des systèmes qui sont à bord pour pouvoir se retourner et nous mettre dans la configuration que l'on souhaite. Le système nous a dit qu'on était bien positionné. On a donc démarré les observations. Et quand on a commencé à regarder le résultat de ces observations, on s'est aperçu qu'en fait, au lieu d'avoir la tête en bas, on avait la tête en l'air. Ou au lieu de l'avoir en l'air, on l'avait en bas.
Aïe, aïe, aïe.
Et donc, il a fallu rapidement refabriquer une séquence d'opérations pour modifier tout cela. Il faut vous dire que c'est une opération qui dure très peu de temps, vu qu'on a des batterie pour une quinzaine d'heures seulement. Et donc, voilà, il a fallu tout refaire. On est en plein au milieu du gué, là. On s'est effectivement mis ailleurs, c'est ce qu'on voulait. On s'est auto-éjecté. Et cette fois-ci, on est tombé du bon côté. Et là, tout tourne pour l'instant comme on le souhaitait au démarrage.
Alors, quels instruments sont à bord et qu'est-ce qu'ils sont en train de détecter ou de prendre comme mesure?
Alors bien sûr, il faut dire que c'est un tout petit, je parlais de filaet qui faisait 100 kilos, là ça fait 10 kilos, il y a donc 3 kilos d'instruments. Dans 3 kilos, on ne fait pas énormément de choses. Il y a un gros instrument qui est pour la première fois du reste ce qu'on appelle un microscope imageur, c'est-à-dire un appareil qui fait des images microscopiques mais spectrales. Sur chaque élément d'image, on a le spectre et dans un domaine de longueur d'onde, l'infrarouge, qui nous donne accès à la composition. Donc pour la première fois, on devrait pouvoir mesurer la composition ou identifier la composition des grains de surface avec les composés minéraux, les composés hydratés, les composés carbonés. Et on le fait avec un instrument qui s'appelle Micromega, qui a été fait en France. Les trois autres instruments sont allemands. Il y a une caméra, un spectromètre infrarouge, qui n'est pas un spectromètre, qui est un instrument qui mesure la température, et un magnétomètre qui mesure le champ magnétique pour savoir éventuellement s'il y aurait du champ magnétique rémanent dans un tel objet. Eh bien, ces quatre instruments ont été déjà mis sous tension plusieurs fois aujourd'hui. Il est bien sûr trop tôt pour vous donner les résultats, puisque je vous ai dit, on est au milieu du gué, les données arrivent à peine sur Terre actuellement, mais on a bon espoir que, effectivement, ça va marquer une étape essentielle de l'exploration spatiale.
Et l'idée, c'est de nous dire en quoi les astéroïdes ont pu contribuer à soit la présence de l'eau sur Terre, soit en tout cas à ce processus de formation du système solaire.
Oui, c'est-à-dire que quand on regarde l'exploration spatiale du système solaire depuis maintenant quelques décennies, on s'aperçoit que ce qui frappe, c'est pas que les objets se ressemblent, c'est qu'il y a une diversité incroyable. Et qu'est-ce qui fait que la Terre est différente de Mars, de Vénus? Cette diversité, elle reflète en fait la diversité des processus qui ont jalonné les premiers moments de l'évolution des objets. Et les astéroïdes en ont gardé la trace quelque part. Donc du point de vue dynamique, c'est très important. Et en plus, si la Terre est différente des autres objets, qui eux-mêmes sont différents entre eux, c'est qu'elle porte la vie. Et on essaye actuellement de réfléchir de manière tout à fait différente à ce qu'on appelait l'émergence de la vie à partir de la non-vie. On est à peu près convaincu maintenant, et c'est Philae un peu qui nous a guidés vers cela, qu'il y a une évolution continue de ce qui s'est passé dans la chimie du nuage primordial, avec une chimie très particulière, très contingente à l'évolution propre du nuage protosolaire, vers l'ensemencement de ces produits-là dans les océans terrestres, qui eux-mêmes étaient très particuliers, d'une certaine température, une certaine acidité, etc. Donc il y a une évolution continue de la chimie vers la biologie sur Terre, qui va probablement changer totalement même notre vision de ce qu'on appelle le vivant, qui probablement est contingentement limité à la Terre. Et pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces molécules qui ont eu la capacité de donner lieu à cette structure vivante, mais il faut avoir accès à leur composition. Avec Philae, on n'a pas pu aller au bout, et on espère qu'avec Mascotte, on va avoir une étape supplémentaire de caractérisation sur place, et ensuite de prélèvement et de retour d'échantillons de ce même objet.
Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Pierre Bibring et Sophie Becherel en direct de Cologne, donc pour cette mission de 15 heures seulement de Mascotte, donc qui est arrivée sur l'astéroïde Ryugu. Merci beaucoup, Axel. C'est terminé pour cette une. Il y avait de quoi faire aujourd'hui,
oui,
mais c'est ce qu'on
bien.
Aime. L'actualité chargée de la science. Et dans un instant, on parle de vertige. Ce sera le dossier de l'émission.
À bientôt.
Il est 7h du matin. Réveillé, oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. la bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui rompent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu?
7h du matin, c'était Jacqueline Taïeb.
La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Michel Toupet, vous êtes avec nous pour parler de vertige. On parlait de problème d'équilibre tout à l'heure avec le module mascotte hein, sur l'astéroïde. On va rester quasiment dans le sujet pour comprendre ce qui se passe exactement justement quand on a ces problèmes d'équilibre. Vous êtes otorhino-laryngologiste au centre d'exploration fonctionnelle auto-neurologique Falguière, c'est à Paris, et vous êtes spécialiste dans l'exploration des vertiges et des troubles de l'équilibre à la fois de l'adulte et de l'enfant. Et vous êtes aussi à l'origine d'une manœuvre qui s'appelle Sémon et Toupet et qui donc porte votre nom. C'est une manipulation manuelle hein, entièrement, il n'y a pas du tout de matériel hein.
Non, c'est ça, on retourne l'oreille interne et le patient est guéri.
Ouais, et vous avez eu l'idée de ça quand alors?
Parce qu'on pensait faire vivre le vertige et qu'on allait apprendre aux gens. Et il y avait des guérisons soudaines, inattendues. Donc tout d'un coup, ça a coupé le cours à l'apprentissage avec une guérison surprenante que mes collègues européens avaient déjà vue, mais personne n'arrivait à bousculer le dogme.
Donc il fallait trouver moyen justement de le faire soi-même, c'est-à-dire de rétablir l'équilibre.
Oui, de trouver où était l'astuce, c'était renversant.
Oui, absolument.
Mais comme tous les dogmes, on a du mal à bousculer ce qui est dit par tout le monde et qu'il y ait une autre vérité cachée derrière.
Ouais. Surtout quand elle était aussi simple que ça, parce que c'est d'une simplicité incroyable. Oui. Hein. On a besoin de ces deux mains.
C'est et tout. Puis les gens même pas peuvent le faire tout seul dans leur lit quand ça commence.
On peut le faire tout seul, ouais, c'est ça. Alors vous êtes donc dans ce domaine des vertiges. Comment est-ce qu'on choisit d'ailleurs de se spécialiser là-dedans quand on est otorhino-laryngologiste? Quelle est votre histoire autour du vertige, Michel Toupet?
Le plaisir de la complexité, le plaisir du difficile, le plaisir d'entrer sur un territoire où tout le monde dit on n'y comprend rien. Alors ça donne envie de se retrousser les manches. Je dis bah non. Pendant des années j'appelais ça faire le ménage. Tout lire, tout voir, tout classer, tout ranger, et avoir dit, mais tiens, on n'a pas vérifié ça, ça on l'a pas vu, ça c'est pas sûr. Donc, une aventure humaine, comme il y en a plein.
Ça veut dire que vous avez réponse à tout aujourd'hui sur la question des vertiges?
Non, reste encore loin de là, heureusement, et on en trouve toujours. Ouais. Je découvre par les congrès internationaux d'autres gens qui ont trouvé des belles astuces. Waouh, malin comme tout, il faut que je lise tout. Donc il faut se documenter, il faut des clubs, il faut des congrès, il faut des réunions.
Et c'est la recherche qui avance aussi.
Tout le temps,
sur ce terrain.
Inexorablement.
Alors il y a déjà beaucoup de questions des auditeurs, ça veut dire qu'il y a aussi une attente, hein, parce que c'est un sujet concernant. Est-ce qu'on a d'ailleurs une idée à peu près du nombre de personnes concernées par les vertiges? Et on parlait de l'adulte comme de l'enfant?
L'enfant, c'est plus rare, faut pas exagérer. Ouais. C'est rare, mais ça effraie tout le monde, parce que ça peut être aussi le témoin d'une vilaine tumeur chez un enfant. Et donc tout le monde aurait l'attraper vite et la guérir vite. Mmh. Aujourd'hui, l'imagerie vient à la rescousse, mais il faut encore. C'est pas simple de faire une imagerie chez un petit nouveau-né. Mmh.
Mais il faut s'inquiéter quand même quand il y a des problèmes de vertige chez l'enfant.
Il faut voir des gens compétents.
Ouais.
Et qui, eux, savent comment s'inquiéter.
Ouais, c'est le signe d'un dysfonctionnement probable.
Oui, de l'oreille interne ou du cerveau.
Ouais. Et oui. Alors qu'est-ce que c'est que le vertige? Ou les vertiges, parce qu'on va aussi les décliner. Hein, au
vous avez raison, il y a des mots populaires pour le vertige. Avoir le vertige, c'est, on dit, j'ai le vertige en des hauteurs. Ce qui n'est pas tout à fait le vertige que
la peur du vide, par exemple.
Ou j'ai le mal des transports, ce qui est encore une autre chose. Là, c'est des gens
en parler quand même. Hein.
Oui, volontiers. Là, ce sont des gens qui n'avaient jamais eu toutes ces choses, ou peu importe, ils avaient eu ces choses-là, et tout d'un coup, dans leur lit, en se retournant, on dit, j'ai cru mourir. la pièce a tourné tellement violemment que j'ai cru que mon mari faisait une blague et renversait le lit.
Alors justement, Serge, tiens, sur franceinter.fr, nous dit d'où vient cette sensation de vertige quand on se relève rapidement après, par exemple, s'être levé du lit ou s'être penché.
Alors, voilà, si le patient nous dit bien, c'est que en se relevant, jamais en se retournant dans le lit, jamais en tournant, mais que en bondissant, c'est souvent des gens fatigués, c'est typiquement la jeune femme crevée et qui travaille beaucoup, qui n'est pas bien grosse, qui n'a pas beaucoup de tension, qui en ce moment a ses règles, elle a encore un peu moins de tension, et là, quand elle se met debout, oups, ça vacille. En même temps, elle a le cœur qui bat vite, elle a des petites étincelles dans les yeux, des fourmillements dans les doigts, les cils d'oreilles qui sifflent, elle vacille, elle n'a plus de force dans les jambes, elle se recouche, met les jambes en l'air, retrouve sa couleur rose.
Ouais.
Le sang est revenu.
Et là, ça y est, hein. C'est juste
l'hypotension orthostatique, la chute de tension debout. Ouais.
Et alors, vous disiez, si par contre, ça se passe dans le lit alors qu'on est allongé, là, c'est pas la même affaire.
Ah ben voilà, c'est dans le lit en se retournant tout d'un coup, et surtout d'un côté, alors, et ça dure quelques 10 secondes, là, c'est très souvent les petits cristaux de l'oreille interne, les otolithes.
Ah, alors qu'est-ce que c'est que ça exactement?
Eh ben, les otolithes, c'est l'outil pour mesurer la pesanteur depuis le plus lointain du vivant.
Ah bon? On remonte où, alors?
À 1 milliard d'années.
Ouais.
Dans les paramécies dans l'eau, pour mesurer je descends ou je monte. Là-haut, il y a peut-être des choses à manger. Avantage à ceux qui ont des petits fils à plomb, qui leur dit que le bas est par là et donc le haut est par là.
Donc on a gardé, cette mémoire archaïque?
Alors, cette mémoire archaïque, il est dans les plantes, les racines. Voit qu'en bas, dans le noir, c'est par là. Les bourgeons, c'est par là avant même. Et c'est Darwin qui le premier a compris que les germes de pommes de terre dans la cave dirigeaient vers le bas. C'est pas la lumière qui leur dit puisqu'ils sont dans le noir. Ils tournent les pommes de terre de 90 degrés et 10 minutes après, elles repiquent vers le bas.
Ouais.
Donc, il y avait au bout de ces futures racines des capteurs de gravité qui disent on pousse par là si on veut germer.
Ouais.
Si on veut trouver la Terre.
Et donc, on a conservé ça d'une certaine manière.
D'une certaine manière, sorte de vestige. Voilà. De... Alors, on voit après, en effet, chez les méduses, qui sont des petits mouvements très simples de danse, elles ont 9 yeux. Avec un fil à plomb qui dit que là-haut est le soleil. Parce que c'est pas le tout de voir, c'est que ce que je vois et où je vois. Et où je m'oriente. Donc, on comprend déjà que tous ces fils à plomb servent à se déplacer. Je mesure que j'ai bougé, que j'avance vers la lumière ou qu'un prédateur passe au-dessus de moi, je ferais mieux de m'écarter. Que j'approche près du but de mon terrier, de là où est la nourriture, et c'est pas que le nez qui me dit. C'est pas que, comme pour les saumons, aux odeurs qu'ils m'ont trouvé, ou comme les oiseaux avec la lumière. Là, dans le noir, toutes sortes d'animaux nocturnes se retrouvent avec un sens d'équilibre très très puissant.
Alors j'aime bien l'image du fil à plomb parce que finalement, voilà, c'est ce qui se passe aussi.
Voilà, il y a un fil à plomb très archaïque qui n'a pratiquement pas changé depuis les poissons chez nous. Dans toute cette électronique de notre robot que nous sommes, il y a des choses qui n'ont pas évolué, ou peu évolué, parce qu'elles sont tellement bien faites que le boulot est fait. Comme vous voyez, notre œil est pas très différent de toutes les espèces animales. C'est pas là qu'est le progrès.
Alors, vous parlez de l'œil, on va aussi beaucoup parler de l'oreille, évidemment, avec l'équilibre. Et on va prendre une petite leçon avec « Il était une fois la vie ». Est-ce que vous vous souvenez de ça, Michel Toupet? C'était dans les années 70-80, me semble-t-il, un dessin animé qui nous apprenait beaucoup de choses au niveau des sciences. Et là, justement, il y avait un épisode autour de l'appareil vestibulaire.
Pierrot, on essaie de voir qui peut aller le plus lentement possible sans perdre l'équilibre.
Oui, d'accord. Ah, c'est dur de conserver l'équilibre, hein?
Comment garde-t-on l'équilibre? Mais grâce à l'appareil vestibulaire que voici. En fait, l'équilibre est un sens en soi. Et ceci en est l'organe principal.
Compte tenu du champ de vision, on note un déplacement vers le bas.
Message des muscles de la nuque, inclinaison sensible de la tête.
Message du genou gauche, augmentation de la pression de l'articulation.
Message des canaux semi-circulaires de l'oreille, tête en avant, 15 degrés.
L'oreille, c'est l'organe de l'ouïe, mais c'est aussi celui de l'équilibre, permettant de percevoir les mouvements et les positions du corps, et ce, grâce à l'appareil vestibulaire.
Et voilà comment on apprenait de la science quand on était petit, Michel Toupet. Là, sur l'appareil vestibulaire, pas d'erreur.
Mais non, pas d'erreur, c'est toujours
vrai.
Vous avez
tout approuvé, je vous ai vu.
Non, non, tout est vrai. Si Socrate ne l'a pas mis dans les cinq sens, c'est que ça a un sens beaucoup plus partagé.
Ouais.
C'est la vision participe à l'équilibre, comme le sens des pieds, comme on vient de l'entendre, comme l'oreille interne qui mesure des inclinaisons, des accélérations, des freinages. Et vous voyez, on est trompé en avion, l'avion ralentit un peu, on a l'impression qu'on pique du nez. Il accélère, on a l'impression qu'on lève le nez. Donc, ces accéléromètres, ces capteurs de gravité et d'inclinaison nous trompent. Plein d'illusions sensorielles,
Certaines très gênantes, évidemment.
Très gênantes. Hein. Des avions qui étaient jetés dans l'air par les porte-avions. Le gars avait l'impression d'être perpendiculaire alors qu'il était juste au bon angle. Et rabaisser l'avion, à tort, et plonger dans l'eau. Donc ça a fait beaucoup de gâchis de se faire bluffer.
Ouais. Alors, notre système de l'équilibre, comment il fonctionne? Si on mettait une image toute simple, justement, pour voir comment cette complexité se manifeste en une fraction de seconde, pour qu'on garde l'équilibre.
Alors, il y a un gros fil à plomb qui va incliner toutes les inclinaisons, mais comme une accélération en deux chevaux, quand on avance, le fil à plomb bouge aussi, quand on freine, cet accélérateur est aussi sensible au freinage. Alors, les deux directions d'espace, sinus, cotissinus, sont représentées, un qui nous met debout, l'autre qui raffine un peu la position. Et puis, ces petits arceaux, ces canaux semi-circulaires vont mesurer des rotations de la tête. Cette fois-ci, vous voyez, on n'a pas changé les inclinaisons. Et il faut donc des capteurs de rotation. Alors, avec les espèces, fur et à mesure que la locomotion est arrivée, depuis les lamproies, depuis les vers, depuis les poissons, depuis les oiseaux, tout doucement, trois canaux arrivent de chaque côté en amplificateur différentiel. Quand un est excité, l'autre est inhibé, de façon à augmenter la finesse, comme de deux oreilles permettent de localiser. Donc les petites différences entre les deux organes permettent de comprendre ce qui se passe.
Ouais. Mais l'équilibre, justement, ça fonctionne avec plusieurs choses à la fois. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'oreille, effectivement, il y a la vision, il y a le fait aussi de se maintenir debout sur nos pieds.
Alors voilà, c'est que ça sert à plusieurs choses à la fois. L'équilibre, l'oreille interne, et cet organe de l'équilibre, vous voyez bien, est bien plus subtil que ça. Il mesure, effectivement, il nous met debout, nous permet de marcher, nous permet de courir, nous permet de danser, nous permet de faire des acrobaties et des choses très subtiles et très vite.
Ouais.
Donc on voit que c'est un système très vite branché qui permet du tac au tac de faire de l'escrime, de jouer au foot et de jouer des choses virtuoses. Ça, c'est l'organe de l'équilibre de l'oreille interne. Quand ils sont abîmés, eh ben, ils sont plus des virtuoses. Et la vision, elle aussi analyse très vite le mouvement. Eux, elle analyse autre chose. Voyez, en voiture, la gare des étoiles, on fait filer vite les images. Donc, elle mesure des trucs qu'on ne saurait pas mimer. Donc, il y a sur la rétine des capteurs de mouvement. Chez les animaux comme les pigeons, on voit très très bien ces capteurs-là, ils sont plus faciles à voir. Et puis, dans tout notre corps, dans tous nos muscles, tous les muscles qui nous mènent debout, antigravitaires, mais tous les autres, il y a des capteurs qui mesurent les accélérations aussi, les vitesses, les tensions, ce qui permet d'avoir un corps de danseur et de rattraper l'équilibre, qui est déjà en train de mesurer. Et au judo, vous voyez, on est les yeux en train de s'attraper par le col de chemise. C'est avec ces capteurs-là qu'on sent ce que l'autre va faire et pouvoir décider quelque chose.
Vous le faites bien, le judo. Donc il y a ce triptyque, finalement.
Qui est indéniablement...
Entre la vision,
et qui est branché différemment chez chacun de nous, selon nos pratiques sportives ou pas.
Et quand il y en a un qui dysfonctionne...
Alors, on rattrape avec les autres, et justement, c'est ça qui est très amusant, c'est que d'habitude, ils se partagent un peu les territoires, ils s'empiètent un peu, mais quand il y en a un va manquer, eh ben, la vision va devenir compétente là où il n'était pas jusqu'alors. Donc, il y a des champs récepteurs, on peut dire, un peu des capacités qui sont beaucoup plus grandes qu'on ne pense. Le grand truc, les aveugles qui se reconnaissent au son.
Donc ça, c'est la plasticité, typiquement.
C'est notre capacité d'autres réseaux, de développer des fonctions à des organes qui n'étaient pas prévus pour, tout à fait. L'aveugle qui lit avec les doigts, c'était pas prévu. Mais n'empêche que c'était branché là-haut.
Allez, on parle des vertiges avec vous. C'est passionnant, Michel Toupet. Et il y a beaucoup de questions des auditeurs. Ils sont pressés d'avoir vos réponses. On vous rejoint juste après Léon Bridges. Thank you.
as the ankles break. I know you wish, I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they'd pray.
Bad News, Léon Bridges à l'instant.
La tête au carré.
Betty, est-il vrai qu'il est rare qu'on en guérisse?
De quoi?
De l'acrophobie.
Je ne pense pas que tu aies l'intention de replonger dans toi pour le vérifier.
J'espère guérir sans ça.
Et comment?
Eh bien, j'ai une théorie. Le tout est de m'habituer à l'altitude, seulement par degrés, un peu à la fois. Tout doucement, comme ça, et progressivement. Allons-y. Premier étage, voilà.
Et maintenant, l'étage au-dessus.
Parfaitement, je monte au deuxième. Et voilà. Je regarde au-dessus de moi, et je regarde en bas. Je regarde au-dessus de moi, et je vais me payer une échelle de pompier en sortant de chez toi.
Ce serait trop haut?
Non, toujours plus haut. Excellent test. Je regarde au-dessus de moi, je regarde en bas. Je regarde au-dessus de moi, et je regarde en...
Voilà, et Michel Toupet, notre invité otorhino-laryngologiste, qui a commenté justement Sueur froide d'Alfred Hitchcock en écoutant et en montant justement les barreaux de la chaise, là, hein, quasiment. Qu'est-ce qui se passe justement, ce mal du vide qu'on a tous ressenti aussi, hein.
Alors, vous voyez, déjà, pour répondre vite, pendant qu'on vient d'entendre ces images, il a fait un pas de trop. Dans tout cet apprentissage, où il avait tout à fait raison. On habitue, on apprend. Il a voulu aller trop loin un peu par bravade devant cette jolie femme, et il est allé trop loin. Il faut pas aller trop loin. Il faut bien apprendre petit pas par petit pas et il faut pas aller trop loin. Alors, quelle est cette peur du vide? Ben, effectivement, quand on monte, les repères autour de nous changent.
Le champ visuel est pas le même, hein.
Ben voilà. Ouais. On monte une marche de marche et tout d'un coup, on est plus grand que d'habitude. Nos yeux, quand on les baisse, ne trouvent pas les choses comme d'habitude, mais plus bas. Il y a donc une inclinaison du cou qui est combinée à un regard qui dit, là j'ai à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Et donc, ce n'est plus qu'une habitude, et là, il y a panique.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a tous vécu ce moment, en montagne, par exemple.
Il suffit d'aller plus haut, il suffit de grimper, de monter sur la tour Eiffel, au premier étage, au deuxième, au troisième, et de regarder par au-dessus, monter par les escaliers, et de voir qu'ils sont très grillagés pour éviter toutes les bêtises. Que, évidemment, ça fait une émotion... agréable ou pas agréable, mais une émotion quand même.
Et comment on peut se prémunir alors de cette peur du vide?
Par l'entraînement, effectivement, comme on vient de l'entendre dans le film d'Hitchcock, par des petites doses, on apprivoise, on se détend. Quand on peut même pas imaginer, c'est sûr que l'hypnose va aider. C'est sûr que la sophrologie va aider, que des dames gentilles vont pouvoir aider à avancer à petits pas vers nos plus grandes terreurs, pour débrancher l'angoisse.
Vous me disiez, il faut mettre un cadre, en fait.
Alors voilà, l'effet cadre, c'est-à-dire que on est sur un balcon et on voit pas d'effet de vide. Tant qu'on a autour de nos yeux le balcon, les bords de la fenêtre, le toit au-dessus de nous, tout va bien. Et si ce cadre, plus on avance, sort de notre champ visuel, disparaît, là, on n'est pas bien. Donc ça veut dire que cet effet cadre, quand on bouge un peu la tête, il bouge dans notre champ visuel et nous tient la main.
Donc quand on va sur la tour Eiffel, on faut emmener son petit cadre autour du cou et comme ça on peut...
Mais un cadre factice ne tient pas, mais un vrai cadre, un vrai cadre, ça marche.
Alors la peur du vide, le mal de mer, nous dit Charlotte, âgée de 47 ans, je souffre depuis 4 ou 5 ans, alors qu'enfance ça n'était absolument pas le cas. Ma question est la suivante, l'oreille interne peut-elle se dérégler, peut-elle être réglée et si oui, comment?
Alors on vomit pas à cause de l'oreille interne, on vomit à cause de son cerveau, comme un migraineux qui vomirait. C'est bien sûr l'oreille interne qui a capté le mouvement, mais vous savez très bien qu'on peut voir un film caméra à l'épaule et vomir en voyant au cinéma alors qu'on n'a pas bougé.
Ouais.
On met des images qui bougent et ça peut rendre malade. Donc c'est plutôt la combinatoire vision, œil et même le décalage. Les jeux vidéo peuvent rendre malade. Donc il y a plein de conditions. On voit que le mal de mer, c'est plus grand que le mouvement, la houle, quand on descend dans la salle de cartes, quand on met le nez dans le moteur et qu'on sent le mazout.
Épouvantable.
Épouvantable. Que le bateau s'arrête parce qu'on ramasse les filets, qu'on ramasse les casiers. Affreux. Donc toute cette houle et surtout l'effet piston. Vous voyez, le bateau monte et descend, et il y a une fréquence typique où l'oreille s'est plus bien mesurée, où c'est frontière de l'un, frontière de l'autre, il y a un creux dans le système.
Et c'est celle-là. Qu'est-ce que vous conseillez alors? Parce qu'on nous, il y a des bracelets qui sont ça en vente de temps en temps, ça marche pas du tout. Escroquerie. Ça, bon, alors escroquerie. Disons-le clairement, ça va faire des économies.
Non. Alors, qu'est-ce que prennent nos cosmonautes? Eh ben, ils prennent de la scopolamine, des patchs qu'on colle derrière l'oreille, voilà le médicament. Mais les marins qui sont à bord des patrons et qui doivent être debout, ils peuvent pas être endormis et assommés par la scopolamine qui fait dormir. Le mieux, c'est encore dormir, prendre un coussin, un oreiller et aller se coucher. Alors, on peut pas conduire sa voiture dans ces conditions, ni conduire son bateau. Donc, ceux qui sont à bord, ils doivent tenir bon, ils doivent avoir une action forte, eh ben, on les entraîne à faire tourner des lumières autour d'eux, et qu'ils fassent des mouvements de tête pour dire oui, ou dire peut-être avec la tête.
Ah oui, donc on s'entraîne comme un champion. Ouais.
Comme, voilà, activement, volontairement, à la dure.
Ouais.
Et aux États-Unis, à New York, à Brest pour nos marins, on a des endroits d'entraînement pour refaire des durs à cuire pour des gens qui veulent remonter sur un bateau.
Ben oui, mais pour le passager lambda qui aurait le mal de mer, est-ce que s'allonger, ça sert à quelque chose?
Oui. On a dit, mettre la tête un peu en l'air, s'endormir, on pourrait dire. S'endormir. Ouais. Alors, il y a plein de trucs en voiture. Il faut pas manger des choses qu'il faut pas manger sur la route. Vous voyez, il faut pas manger des frites, faut pas boire du coca, faut pas boire des trucs, faut pas boire du frais.
Il faut éviter de lire,
Au pain, il y a non, parce que, vous voyez, quand on lit et que ça bouge à un rythme différent, ça augmente encore le cas, ou lire une carte en voiture ou en bateau. Alors, non, il faut regarder là où on va. Comme le conducteur, il faut faire les mêmes mouvements que lui d'anticipation sur l'action. Ah ben oui, il faut prendre le volant.
Ah, quel boulot.
Faut faire, il faut être au milieu, là où ça bouge le moins. Il faut n'être ni trop chaud, ni trop froid. Et il faut rester, soit actif, soit au contraire, s'endormir. Alors, mettre une couverture, un oreiller, je vous dis, et dormir derrière la voiture.
Sylvain, autre question. Suite à une pression continue au travail pendant une année maintenant, des vertiges sont apparus après plusieurs consultations, des manipulations pour remettre les cristaux internes en place. Les vertiges réapparaissent par période. Je fais maintenant moi-même ces mouvements pour me soulager. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre maintenant que la pression due au stress a cessé.
Ah, voilà. Là, on est déjà sur un truc un peu plus compliqué. Il a bien des petits cristaux qui se promènent dans son oreille interne.
Ouais.
Les cristaux qui mesuraient la pesanteur se promènent dans des tuyaux qui mesurent autre chose. Et donc, quand il bouge la tête, ça lui donne l'impression qu'il tourne. On fait une manœuvre qu'il peut apprendre lui-même et on peut le guérir. Pourquoi ces cristaux sont partis chez un jeune homme? Parce qu'il est fatigué. Parce qu'il est en surmenage. Et nous aboutons la deuxième partie du puzzle. Quand on est crevé, quand on est une dame âgée, quand on a eu beaucoup d'enfants, quand on a beaucoup accouché, allaité, on a épuisé ses réserves en calcium et il faut les renouveler. Le grand traitement de fond, vitamine D.
Ouais.
Et manger calcium.
Mais vous parlez beaucoup des dames, mais les hommes aussi ont des vertiges, non?
Oui, mais 4 fois plus de dames que d'hommes, de 60 ans, ont ce vertige-là.
Ouais.
C'est quand même très féminin, comme la colle du fémur.
Ouais.
C'est quand même féminin.
Donc il y a des âges aussi pour les femmes qui sont plus propices au vertige.
Oui,
hein.
Oui, 50, 60 ans.
Ouais. On va écouter un sujet sur le vertige positionnel paroxystique bénin. C'est le plus fréquent ou pas?
C'est un tiers de tout ce qu'on voit.
Eh bien, on va écouter ce reportage, on va le commenter juste après Michel Toupet.
Ça fait 13 ans que Martine Pélissier souffre de vertige paroxystique positionnel bénin. La cause la plus fréquente des vertiges en ORL qui atteint près d'un tiers des patients vertigineux. Un handicap qui pénalise fortement la vie de cette patiente.
Je ne peux pas me pencher en avant, je ne peux pas me retourner, tourner la tête rapidement.
Outre l'impression de désorientation, le sujet peut avoir des difficultés à se tenir debout ou à marcher.
À la suite probablement d'un traumatisme, des cristaux se sont accumulés dans un des canaux de l'oreille interne. Et lorsqu'elle bouge la tête, dans le plan de ce canal, les cristaux se déplacent et donnent une illusion de mouvement, un vertige, qui dure une quinzaine de secondes et qui se reproduit chaque fois qu'elle fait un mouvement dans le plan de ce canal.
C'est la deuxième fois que Martine Pélissier s'assoit dans ce fauteuil particulier de ce spécialiste à Monaco. Plusieurs tours à chaque séance pour un traitement plus précis que par les manipulations manuelles.
Après avoir identifié le ou les canaux à traiter, on positionne le patient dans le plan du canal et on réalise des accélérations et des décélérations de façon à éjecter du canal les cristaux qui provoquent les vertiges.
Voilà, Michel Toupet, un commentaire donc sur ces vertiges qui touchent 4 millions de personnes chaque année, en particulier donc des femmes, vous le disiez tout à l'heure. Ça peut être quand même très très perturbant apparemment. C'est pas une maladie, mais c'est très gênant.
Voilà, la cause n'est pas grave, on peut guérir, mais chaque fois les gens sont épouvantés. Vous avez des témoignages de gens qui ont l'impression de mourir. Et qui se dit, mais quand même, c'est pas grave, je vais vous guérir, on va gérer tout ça. Mais il dit, non, non, votre cancer, c'est quand même plus sérieux. Non, mon cancer, on s'en occupe. Mais mes vertiges, j'ai l'impression qu'on sait pas et j'ai pas envie de vivre ça tout le temps.
Ouais.
Donc, quelquefois, c'est un paradoxe.
Ouais.
Ils ont l'impression que ce vertige est bien plus grave que leur cancer. Faut pas exagérer.
Sauf que c'est extrêmement pénible à vivre.
Oui.
Hein.
Et ça gâche
le,
la vie.
Le ressenti est épouvantable voilà. Quand même.
Ah, il y a des ressentis jusqu'au schéma corporel des gens, je suis plus moi, je suis plus dans moi, je suis plus comme avant, ouais. Je touche plus par terre. J'ai l'impression que mon corps a changé.
Il y a un accompagnement psychologique donc qui est important aussi dans ces cas-là.
Alors, tout le monde dans ce monde médical doit être aussi psychologue. Tout le monde doit rassurer, depuis les kinés qu'on a entendu tout à l'heure parler, jusqu'aux médecins, et puis après des vrais psychologues, qui sont de plus en plus spécialisés aussi dans ce monde du vertige.
Michel Toupet, vous êtes avec nous. On se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion autour des vertiges dans La Tête au Carré, le temps d'écouter Le Jour et la Nuit. Et c'est Gaëtan Roussel, bon après-midi sur Inter.
Elle me dit fuis le miroir, garde l'espoir, suis le tour, regarde devant, fuis la consigne, garde l'élan, garde la ligne, suis le moment. Elle me dit fuis le miroir. Le jour. Et la nuit. Le jour. Et la nuit. Elle me dit fuis la colère. Regarde derrière. Garde l'espoir. Fuis la consigne. Garde l'élan. Garde la ligne. Suis le moment. Garde l'élan, elle me dit fuis la colère. Le jour et la nuit. Le jour. Un jour découvrir et puis devenir un jour découvrir et puis devenir. Le jour.
Voilà, Michel Toupet avec nous, spécialiste du vertige, pour évoquer donc ce sujet dans La Tête au Carré avec beaucoup de messages. Il y a Gérard Louis qui nous dit « Depuis 2011, je souffre de vertige positionnel paroxystique bénin par période, expérience épouvantable, difficile de comprendre, de faire comprendre à quiconque ce qu'on vit justement. » Et il nous précise « On préférerait parfois mourir plutôt que d'endurer ce vertige 10 secondes de plus. » C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Sur l'aspect insupportable de ces vertiges. Autre question de Philippe qui nous dit, est-ce qu'il y a du nouveau dans le traitement de la maladie de Meynière? Alors ça, c'est une autre catégorie de vertiges?
Oui, la Méni-Manière, c'est un tout autre chose, inventé par Prosper Menière, notre Français de 1861, Napoléon III, l'Académie impériale de médecine, qui avait compris que, effectivement, dans cet organe de l'audition, il pouvait y avoir en même temps des vertiges, l'autre partie de ce labyrinthe, où les patients avaient un bourdonnement grave, qu'on appelait en conque marine à l'époque, en coquillage, entendez la mer, qui annonçait que la crise allait venir, elle aurait été pleine d'eau, comme pleine d'eau, plénitude. Et puis une crise de vertige arrive qui va durer une demi-heure, épouvantable. Ils vont se coucher dans le noir. C'est passé, ils ont vomi quelques fois, ça va un peu mieux. Et après, ça y est, l'oreille est devenue normale. Et puis ça leur retombe dessus un de ces jours.
Ouais.
Quand ils sont stressés, fatigués.
Ah, c'est ça le stress plutôt. Ah,
encore une fois, oui, encore une fois, le stress qui vient sans doute dérégler toute la gestion automatique du système, avec plein d'hormones de stress qui agiraient. Adrénaline, prolactine, hormones antidiurétiques, tout un monde qui serait autant comme l'hypertension, comme la tachycardie, toutes sortes de choses. Et là, chez ces gens-là, une oreille est malade cycliquement, à chaque fois que, pas dormi, fatigué, poussé à bout.
Ouais, ça c'est 6% des personnes. Hein.
Oui, et donc dedans, plein de variantes. Ouais, plein de variantes.
Comment on traite ce vertige particulier?
On traite mal.
De Menière.
On traite mal. Donc d'abord par retirer le stress, détente, sophrologie, bien dormir, avoir compris que c'était comme ça les grandes causes. Après, des médicaments qui vont vider l'œdème, des médicaments qui s'appellent des diurétiques, qui vont pisser un peu plus, ou des médicaments comme le glycérol qui vont mettre l'eau dans les selles. Donc on va pomper l'eau du corps pour assécher ce trop-plein. Après, des médicaments qui sont comme le pétahistine, le tanganyl, puis la cortisone transtympanique, en injection, on anesthésie le conduit, puis on va piquer derrière le tympan. Et puis, quand ça marche pas, on va opérer.
Ouais.
Vidanger, ouvrir la vidange, clipper la vidange.
Et ça, c'est efficace?
Oui et non. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on avance, on avance. Donc, il y a toujours un effet. Quelquefois, la maladie dure pas pour des raisons qu'on comprend pas. Elle s'arrête et ça va mieux. Mais dire qu'on est tout à fait maître, on peut être très compétent et pas maîtriser totalement.
Ça, c'est 6%, je crois,
des
vertiges.
Oui,
donc, c'est vertiges de Menière. La névrite vestibulaire, autre type de vertige, 6% aussi chez les personnes. Là aussi, c'est apparition brutale de
vertige.
Alors
voilà, c'est une grande fois dans la vie. C'est pas un truc qui va se répéter comme la petite Menière.
Tout d'un coup, sans raison apparente.
Sans raison, ouais. Il se réveille dans le lit avec un grand vertige comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, ça n'arrête plus. Pendant des heures et des heures, des jours et des jours.
Ah, quelle horreur.
Et ça se calme. Oui.
Des jours et des jours. Hein.
Des jours et des jours. Et ça m'aide des mois à améliorer. Et dire, voilà, pendant une semaine incapable de conduire sa voiture, évidemment, de reprendre le boulot.
Ouais.
On va se casser la figure des escaliers. Donc, il faut absolument traiter au mieux. Aujourd'hui, on met de la cortisone. Parce qu'on pense que c'est une maladie auto-immune, allergique contre sa propre oreille.
On pense.
Ouais. On pense. Mais c'est les arguments d'aujourd'hui, les arguments de ces dernières années.
Ouais.
Parce qu'il faut aussi récupérer des oreilles de gens morts pour autre chose et vérifier qu'est-ce que c'était donc.
Ouais. Et donc là, c'est aussi accompagnement de nausées.
Énorme.
Ouais.
Vomissement, d'instabilité, de yeux qui bougent en permanence.
Ouais. Et là, on est cloué, quoi. Impossible.
On est cloué au lit, oui.
Impossible de faire
les
quoi
gens
que ce
se couchent, restent dans le noir, demandent à ce qu'on les laisse tranquilles.
Ouais.
Et il faut les aider pourtant à se réveiller, à se mettre debout, à se lever, se laver, s'habiller, bouger un peu, venir à table, parce qu'il faut réveiller des suppléances.
Ouais.
Alors, c'est un effet magique de ces 50 dernières années, c'est de comprendre que le cerveau, cette plasticité neuronale dont vous parliez tout à l'heure, Mathieu Vidard, qui est la capacité du cerveau à faire des connexions inattendues.
Ailleurs,
oui. Est-ce que le système pouvait avoir prévu qu'il y aurait une roue de secours? Il en a donc. Donc de se brancher sur l'oreille qui marche, plus sur la vision, plus sur le corps, et de se réparer sans guérir l'oreille perdue.
Donc il faut trouver la bonne issue là aussi.
Alors c'est déjà, avec sourire, se mettre debout.
Ouais. Et parfois l'hospitalisation est nécessaire aussi dans ces cas-là, hein?
Elle est généralement, parce que tout le monde panique, elle n'est pas nécessaire, mais un environnement protégé aide un peu.
Comment ça se passe d'ailleurs une consultation avec vous, Michel Toupet? Quand on a un vertige et qu'on n'en connaît pas la nature, qu'est-ce que vous posez comme type de questions aux patients?
Eh bien, c'est celle dont on a déjà commencé à évoluer ensemble. Racontez-moi votre histoire. Ouais. Racontez-moi comment ça s'est passé. Et dans le lit en vous tournant, et des bruits dans l'oreille, et des bourdonnements, et une surdité. Et combien de temps? Et ça durait vraiment combien de temps? Voyez, on parlait de quelques secondes tout à l'heure dans le vertige paroxystique bénin. Puis on a parlé d'une demi-heure dans la Méni-Manière. Puis là, on va te parler de quelques jours. Donc, vous voyez, déjà, en quelques mots, je suis dans des grandes familles où il peut y avoir, derrière cette névrite, une fracture du rocher, une fracture de l'os, où je peux avoir un accident vasculaire ischémique du cerveau. Donc, il y a plein de pièges partout.
Ouais.
Mais il y a des éléments en faveur d'eux, on est plutôt dans cette rubrique, puis on avance, et racontez-moi d'autres détails, et puis ça, et puis ça, et puis ça.
Et vous arrivez donc à trouver le bon vertige dans cette famille
eh ben
là
oui.
qu'on est en train de décrire.
Eh ben oui, un peu comme si on vous racontait un animal que quelqu'un a vu mais qu'il connaît pas. S'il le raconte bien, il dit mais voilà.
Alors justement, les vertiges liés à l'âge, hein, parce que chez les personnes âgées aussi, les vertiges s'installent plus volontiers.
Alors vous voyez, depuis l'Antiquité,
qu'est-ce qui se passe là,
la canne, ben c'est que tout
c'est la vieillesse de l'oreille aussi ou pas?
Alors pas seulement. Vous voyez, la vieillesse des pieds, la vieillesse des muscles, ouais. la vieillesse des yeux,
de la
vieillesse
vision.
Du cerveau. Mais ouais. oui, c'est que tout vieillit pour l'équilibre. C'est tellement difficile d'être une bonne danseuse qu'on met beaucoup d'années, vous voyez, à devenir vertueuse, que c'est très périlleux et que ça redégringole très vite. Dès 60 ans, on est moins bon. Les premières chutes commencent à arriver à 65 ans. C'est 81 ans l'âge du col du fémur en France. C'est donc des gens qui tombent pour pas grand-chose et qui en plus sont fragiles.
Ouais.
Le trouble de l'équilibre, première cause du sujet âgé, première plainte, avant la mémoire. Avant les yeux,
ouais.
avant l'audition, avant la mémoire. C'est que je ne peux plus faire ce que je faisais avant.
Donc ce sont les organes qui vieillissent.
Et le retour moteur,
ouais.
le cerveau qui pige vite, et le retour musculaire des articulations, donc c'est aider les gens à faire des promenades tous les jours. Continuer à aller au golf, continuer à faire ses courses, continuer à faire son ménage,
donc, l'activité
continuer à faire
physique,
sa toilette, continuer à...
Pour stimuler toujours les organes.
Oui, et ce qu'on fait d'habitude, il n'y a pas besoin d'être très très malin, cette variété-là domestique est déjà pas mal.
Julie demande, est-ce que justement les problèmes de sensation, de vertige, ces problèmes sont liés parfois à des douleurs cervicales? Est-ce que c'est possible
non,
ou pas?
Non,
ça fait partie des idées
piège.
Reçues, ça, c'est
oui.
vrai.
C'est plutôt, quand on a un vertige, vous voyez, dès que je bouge la tête, ben je bouge plus la tête. Ouais. Et là, on complique son cou.
Ouais.
Non, il n'y a pas de vertige d'origine cervicale.
Ça n'existe pas.
Non, c'est, on a mal au cou dans les vertiges parce qu'on bloque son cou.
Marlène dit, ma maman, justement, 95 ans, souffre depuis plusieurs années de vertige qui l'empêche de quitter son fauteuil avec les conséquences désastreuses que vous imaginez. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller alors?
De se lever.
Vous disiez marcher.
Mais même si se lever, c'est les risques de tomber, moins marcher, c'est les risques quand elle se lèvera pour aller aux toilettes de tomber toute seule.
Ouais.
La nuit. En plus, personne ne sera là pour la rattraper. Moins on marche, moins on sait marcher. C'est le vieil axiome. On devient forgeron en forgeant. Donc c'est l'entraînement à la dure. Et donc, prendre sa vieille grand-mère par le bras et l'emmener faire un petit tour dans la maison.
Ah oui, c'est militaire avec vous, hein, Michel Toupé, hein, ça rigole pas. Hein.
C'est l'éducation.
Ouais.
Je veux dire qu'il faut, avec le sourire, inviter à faire des efforts. Si les efforts ne sont pas naturels, il faut les motiver.
Fabrice dit « Je souffre de vertige dû à un dysfonctionnement de l'oreille interne. Le spécialiste m'a dit qu'il n'y avait malheureusement rien à faire si ce n'est suivre quelques séances de kiné vestibulaire. »
Ah ben voilà, le kiné vestibulaire, le voilà, ce gendarme qui va vous aider à bouger. Sur un fauteuil passivement, c'est, on voit un peu comment ça marche, mais la grande rééducation, elle est active.
Ouais.
Et debout. Allez, on y va.
Fabrice le vit, hein, c'est un véritable handicap au quotidien. Je vis à 50 ou 60% de mes moyens, c'est ce qu'il estime. Hein.
Donc, ça se retrouve à force de travail.
Ouais.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cette neuroplasticité, jusqu'au dernier moment de la vie, nous fait apprendre des choses.
Il faut la stimuler.
Il faut aller la chercher.
Et les médicaments, alors les molécules aujourd'hui qui sont vraiment, qui ont fait leur preuve.
Il n'y a pas de coup génial dans les médicaments. Il y en a. C'est pas des révolutions. Alors on les cherche. Bien entendu, il y a une grande demande, une grande attente. Beaucoup d'amis chercheurs avec qui je travaille, à qui on fait des études.
Ouais.
On cherche des médicaments. Mais par rapport à ces vérités qu'on vient de s'échanger là, vous voyez, cette kiné vestibulaire qui est une véritable révolution, mais activité, emmenez votre maman faire les courses au supermarché, mettez-la dans le caddie, votre vieille maman, et allez l'aider à trouver où on a rangé le Nesquik pour les petits-enfants. Qu'elle donne des coups d'œil, qu'elle avance en cherchant, qu'elle ne se perde pas dans le supermarché. Et maman, où est-elle à sortie? Voilà son hippocampe.
Oui.
Voilà les cellules de la mémoire de lieu, de la mémoire de l'orientation de l'espace.
Donc tout stimulé. Hein.
Tout stimulé, jusqu'au voilà. dernier moment.
Merci beaucoup à vous, Michel Toupé. Il y avait énormément de questions. Je rappelle que vous êtes otorhino-laryngologiste dans ce centre d'exploration fonctionnelle auto-neurologique Falguière, et c'est à Paris. Merci beaucoup à vous d'être venu cet après-midi nous éclairer sur les vertiges dans la tête au carré. Merci à Elisabeth Collet qui était à la technique.